Le représentant permanent de l'Iran près de l'Iowa a critiqué les positions non consultatives adoptées par le directeur général de cette agence sur l'accord nucléaire. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer un convoi de véhicules blindés venant de l'Irak, chargés d'équipements et de matériel logistique, pour soutenir leur base dans la banlieue d'Asaké en Syrie. Et au Sénégal, les élections territoriales de nouveau reportées. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, a critiqué les positions non consultatives adoptées par le directeur général de cette agence sur l'accord nucléaire. L'ambassadeur d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Ghalibabadi, a critiqué mercredi 24 mars le directeur général de l'IAEA, Raphaël Grossi, pour ses remarques non consultatives sur le plan global d'action conjoint. M. Ghalibabadi a fait ses remarques mercredi en réaction à l'interview de Grossi avec l'hebdomadaire américain Newsweek, dans lequel il a déclaré que des discussions détaillées et techniques sont nécessaires pour déterminer l'emplacement de l'uranium non déclaré en Iran et que la question est totalement liée à la renaissance de l'accord nucléaire, officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjoint. Réagissant à l'interview accordée par Raphaël Grossi à Newsweek sur Twitter, Ghalibabadi a déclaré que l'adoption des positions plutôt politiques que techniques est non consultative et destructrice. Selon ce dernier, de tels entretiens consécutifs ne font que miner davantage la crédibilité de l'IAEA auprès de l'Iran et créer un sérieux obstacle au succès de toute initiative ultérieure du directeur général de l'IAEA basée sur l'interaction et la bonne volonté, a-t-il indiqué. Le plan global d'action conjoint est confronté à de nombreux problèmes. Il n'est donc pas nécessaire de le compliquer par des remarques étrangères, a précisé l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Les questions sont interdépendantes et la République islamique d'Iran ajustera ses étapes et ses interactions avec l'agence et le directeur général en tenant compte des autres questions, a souligné M. Ghalibabadi, déclarant que l'Iran continuait d'agir de manière transparente et coopérative dans le cadre de ses engagements, dans le cadre de l'accord de sauvegarde du traité de non-prolifération TNP. Téhéran n'accepte la levée des sanctions américaines que de manière vérifiable avant de revenir au plein respect de l'accord de 2015 portant sur le nucléaire civil de l'Iran. L'Iran dit qu'aucune négociation n'est nécessaire sur le retour de Washington au plan global d'action conjoint et que les États-Unis devraient d'abord lever toutes les sanctions que Trump a imposées à l'Iran avant que l'Iran ne revienne à la pleine conformité. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer un convoi de véhicules venant de l'Irak, chargés d'équipements et de matériel logistique pour soutenir leur base dans la banlieue de Asaké en Syrie. Des sources locales de la zone de Souaïda ont indiqué à la correspondante de Zana que les forces d'occupation américaines avaient fait entrer un convoi composé de 80 véhicules, dont des camions et des camions-citernes et des camions frigorifiques via le poste illégal d'Al-Walid vers leur base dans la banlieue de Asaké. Les sources ont souligné que le convoi était accompagné d'un certain nombre de voitures avec à bord des hommes armés affiliés à la milice des FTS, soutenus par les forces d'occupation américaines. Sachez également que deux civils sont tombés en martyr dans l'explosion d'une mine abandonnée par les terroristes Daesh à Tariq Salma, dans la zone de Wadi Azib, dans la banlieue de Salamiya. Une source du commandement de la police de Hama a indiqué qu'une mine terrestre abandonnée par les terroristes de Daesh avait explosé dans un motocycle à Tariq Salma dans la zone de Wadi Azib dans la banlieue de Salamiya, ce qui a fait un homme et une femme martyrs. La Syrie et la Russie ont affirmé la poursuite des efforts déployés pour le retour de la vie normale dans les zones libérées du terrorisme en Syrie et pour faire retourner les réfugiés et les personnes déplacées en dépit de grands obstacles à cause des mesures économiques et coercitives unilatérales imposées par l'Occident à la Syrie. Le ministre de l'Administration locale et de l'Environnement, Hossein Makhlouf, a fait allusion aux efforts déployés par l'État syrien sous les directives du président Bachar al-Assad pour garantir le retour digne des réfugiés après les victoires de l'armée syrienne sur le terrorisme et la stabilisation de la plupart des zones pour faire retourner les personnes déplacées à leur zone et mettre fin à la souffrance qu'elles vivent dans les pays de refuge. Makhlouf a souligné que l'État syrien continue d'octroyer tous les services nécessaires qui soutiennent le retour des réfugiés et des personnes déplacées à leur patrie en dépit des mesures coercitives unilatérales, notamment la soi-disant loi César et l'interdiction de l'accès des médicaments et des dispositifs médicaux à l'ombre de la pandémie de COVID-19 et de la poursuite des violations et des crimes commis par les deux occupations américaines et turques, en plus des agressions israéliennes. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé mercredi, lors d'une réunion avec son homologue allemand Heiko Maas, que Washington envisagerait des sanctions supplémentaires à l'encontre des entités impliquées dans le gazoduc Nord Stream 2. Berlin espérait que la nouvelle administration américaine dirigée par le président Joe Biden aurait une approche plus réaliste de Nord Stream 2, ont déclaré à Reuters des responsables diplomatiques et gouvernementaux allemands. Mais Blinken aurait exprimé à Heiko Maas l'inquiétude des États-Unis. Il a assuré que le gouvernement de Joe Biden était déterminé à respecter la loi adoptée en 2019 par le Congrès américain qui prévoit des sanctions pour les entités impliquées dans le projet controversé de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Le mois dernier, le porte-parole du département d'État Ned Price a annoncé que les États-Unis accentueraient les sanctions contre le gazoduc alors que le chantier est presque terminé. Un groupe de 40 sénateurs républicains a écrit une lettre à Joe Biden estimant que le projet Nord Stream 2 était une violation flagrante de la loi américaine et ont appelé à davantage de sanctions. L'année dernière, la construction du gazoduc dans les eaux danoises au large de l'île baltique de Bornholm a été interrompue en raison des menaces de sanctions américaines. Maintenant, la construction a officiellement repris et est terminée à 93%. Arrivé à terme, le gazoduc transportera chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe vers l'Allemagne. Le gouvernement sénégalais a décidé mercredi 24 mars en Conseil des ministres de reporter de nouveau les élections territoriales. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant sur le report des élections territoriales et la propagation du mandat des conseillers départementaux et municipaux, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres sans préciser la date à laquelle la consultation électorale sera reportée. Cette décision intervient dans un contexte où le gouvernement a réuni des experts, la classe politique et la société civile pour réfléchir sur le processus électoral au Sénégal. Ces élections, initialement prévues en juin 2019, devaient théoriquement être organisées au plus tard le 28 mars 2021, après deux reports. Selon le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, le Sénégal compte à ce jour 599 collectivités territoriales, 557 communes et 42 départements. Il s'est ouvert ce 24 mars à Niamey un forum international sur la paix et la stabilisation dans les zones de conflit et la lutte contre le terrorisme insurrectionnel dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Présidant la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Brigui Rafini a rappelé l'importance du thème choisi. Aujourd'hui, le défi le plus saillant au monde est le défi sécuritaire avec la présence des groupes armés terroristes et criminels dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Ces groupes disputent aux États le contrôle des régions entières, particulièrement en zone rurale, a-t-il indiqué à cet effet. Le chef du gouvernement a ensuite détaillé le mode opératoire de ces groupes terroristes, notamment leurs usages systématiques de la violence et de la justice expéditifs et leur volonté manifeste de se porter en contre-exemple de la mauvaise gouvernance. Il a ensuite appelé les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad à mutualiser leurs efforts en vue de venir à bout de cette menace. Le général Mamadou Aboutarka, président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, est allé dans le même sens que le Premier ministre. Pour vaincre le terrorisme insurrectionnel, a-t-il ajouté, les techniques du contre-terrorisme doivent être complétées par les leçons de la doctrine contre-insurrectionnelle, reconquérir et contrôler l'espace, protéger la population et rétablir l'administration dans toutes ses fonctions. Nous avons besoin de mobiliser à la fois l'État et la population, de renouveler et de renforcer le pacte républicain dans lequel l'État est au service de tous. Notons que depuis 2015, la région du Sahel et le bassin du lac Tchad font face à une crise sécuritaire sans précédent. Depuis le début de l'année, ce sont environ 250 personnes qui ont perdu la mort dans des attaques terroristes au Niger. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La résistance sort-elle son arme suprême? La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué qu'elle reprendrait les pourparlers stratégiques avec le gouvernement irakien le mois prochain et qu'elle discuterait du prolongement du déploiement des troupes américaines en Irak. Évidemment, il n'y a pas trop de choix. À Mossoul, où les forces de Hacht al-Shaabi ont déclenché ce mercredi matin l'une des opérations les plus vastes que soit depuis que les États-Unis tentent de faire revivre Daesh en ramenant des terroristes et par des centaines depuis la Syrie voisine, avant que ces derniers ne se heurtent de plein fouet aux remparts d'acier de la résistance, une chose parfaitement inouïe vient de se passer. Des sources proches de la résistance ont publié les restes d'un missile de croisière furtif de type Storm Shadow, conçu pour frapper l'ennemi dans son territoire profond jusqu'à près de 400 km, voire même 560 km, quelle que soit la défense aérienne, grâce à sa furtivité qui le rend presque indétectable, y compris par les avions radars AWACS. Des sources occidentales ont tenté aussitôt de masquer l'info et de remplacer les photos de ce superbe missile furtif de 1300 kg par des photos de drones. Mais le mal a été fait. Escalp EG est une arme stratégique conventionnelle qui permet de frapper des cibles de grande importance loin dans le dispositif adverse. Certes, les British ont prétexté la lutte contre Daesh à Mossoul pour faire usage de cette arme, mais on sait effectivement que l'OTAN est sur le point de tester ce genre d'engin pour les employer contre la résistance. Surtout que les Américains, de l'aveu même des sources militaires irakiennes, ont très clairement dit et affirmé que la coalition ne prendra part à aucune opération impliquant les Hacht et que les armes US ne devraient pas servir les Hacht. Le missile a une masse de 1300 kg, un diamètre maximal d'un mètre et une envergure de 3 mètres. Sa portée officiellement de 250 km est en fait supérieure à 300 km et proche de 400 km et permet un tir à distance de sécurité. Ce missile de type tiré oblique est programmé avant le lancement. Une fois largué, sa cible ne peut pas être modifiée et il ne peut être ni contrôlé ni autodétruit. Sa mission est préparée au sol en définissant sa cible et les zones de défense adverses. Le missile suit une route de façon quasi autonome en vol à basse altitude en suivant le relief en utilisant le GPS et le recalage altimétrique. Et c'est un tel engin qui a été abattu à Mossoul, comme le confirment des photos mettant en scène les restes du missile. Mais avec quoi? Puisque Daesh est un agent direct des Américains, ce ne pourrait qu'être la résistance irakienne en possession d'une DSA capable de pulvériser un tel engin. Une DSA sophistiquée, antifurtif, a-t-elle fait son entrée sur la scène irakienne? Pour la première fois depuis la tonitruante frappe aux 10 roquettes RH-4 contre Aïn al-Assad le 16 février, qui a coûté la vie, entre autres, à un officier US, la résistance irakienne a publié il y a 4 jours une rare photo de son arsenal. Le 20 mars, la brigade Raybar a partagé des photos de certaines de ces roquettes, ce qui semble être une nouvelle mise en garde contre les forces américaines en Irak. Le groupe a revendiqué l'attaque à la roquette du 3 mars contre la base aérienne Aïn al-Assad dans la province occidentale d'Al-Anbar. L'officier américain tué, les Américains l'ont transformé en victime d'une crise cardiaque. Les photos publiées par les brigades Raybar montrent une roquette de 107 mm de fabrication iranienne, une roquette gratte 122 mm et un projectile plus gros du même calibre qui devait être une fusée RH-4 de fabrication iranienne. Selon des sources irakiennes, la brigade Raybar a utilisé plus de 10 roquettes RH-4 dans l'attaque contre la base aérienne d'Aïn al-Assad. Mais ce ne serait sans doute pas les RH-4 à l'origine de la destruction de Scalp British. Dans la foulée, l'administration américaine a annoncé qu'il reprendrait les pourparlers stratégiques avec le gouvernement irakien le mois prochain. Nous sommes impatients de reprendre nos pourparlers stratégiques avec le gouvernement irakien en avril prochain. Voilà ce qu'a indiqué un porte-parole de la Maison-Blanche dans un communiqué ce mercredi matin. Une annonce qui intervient sur fond d'un accord militaire signé avec Amman, lequel accord loue carrément le ciel, la terre et les mers du royaume aux États-Unis, en lieu et place de l'Irak.